Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Campus Amiens et vous écoutez Info Club Sandwich, votre quotidienne d'actu locale et associative. Aujourd'hui, je suis dans les Ortillonnages à l'occasion de l'inauguration du 15e festival Art et Jardin. Je suis allée à la rencontre des artistes et paysagistes qui participent pour la première fois au festival.
On est des étudiants en art plastique à la fac d'art.
Le collectif Écopin et son projet Au Fond.
Et on est aussi un collectif, enfin on représente un collectif lors du festival des Ortillonnages d'Amiens.
Le collectif Écopin, l'oubli le plus important. C'est le collectif Écopin, c'est pas n'importe lequel. Hein.
Notre projet constitue en une table modulaire, donc c'est-à-dire qu'il y a plusieurs modules, plusieurs petites tables qu'on a rassemblées en une grande table de conférence. Et chacune de ces tables, de ces petits modules, représente un acteur des ortillonnages, parce que la chose qui nous a le plus frappé en fait la première fois que nous sommes venus ici, c'est le nombre d'intervenants qui utilisent ce même endroit et qui doivent justement vivre en harmonie pour pouvoir tout simplement profiter de ce magnifique endroit dans de bonnes conditions. Et il y a une deuxième partie à cela, c'est qu'on a donné aussi la parole à ces intervenants, à ces acteurs, au travers de petits clips audio. Où on leur a posé des questions plus poétiques sur leurs ressentis justement par rapport à cet environnement magnifique que sont les ortillonnages.
Alors sur cette table, il y a différents objets qui sont disposés pour représenter par exemple les chasseurs. On a une cage à canards avec des faux canards dedans qu'ils ont bien voulu nous prêter. Et pour représenter aussi des acteurs qui ne sont pas humains, on a la faune, la flore... La Somme aussi, qui est représentée avec une gravure peinte et qui forme le circuit de la Somme, mais gravé sur bois.
On a essayé d'être le plus simple et efficace pour que ça soit directement compréhensible. Surtout qu'à côté, il y aura les QR codes qui vous amèneront en fait aux audios justement de la personne qui a parlé. Donc, par exemple, si vous êtes devant la table des apiculteurs, il y aura le QR code qui vous amènera vers l'interview que l'on a fait avec eux.
On a dû faire notre proposition en janvier, enfin envoyer notre dossier et le temps qu'il soit accepté. Puis après, on a dû le présenter devant du monde en février. Et pour qu'il se concrétise, là on est en juin, mais on l'a déjà fini depuis mai, mais ça a pris quand même pas mal de temps pour l'organiser et tout.
Ça apporte beaucoup déjà d'expérience par rapport à l'organisation. On voit que c'est une grande... Il faut être vraiment organisé. En plus, il y a beaucoup de personnes qui utilisent aussi cet endroit. Donc, il faut faire aussi attention au projet des autres pour pas qu'on se gêne mutuellement. Donc, ouais, organisation, un plaisir quand même. J'ai pris beaucoup de plaisir à travailler sur ce projet, de l'idée à la confection. C'était vraiment agréable. Bien évidemment, il y a des hauts et il y a des bas aussi, hein, bien évidemment. Le travail en groupe ramène quand même quelques petits désagréments, mais ça fait partie du jeu. Et ce que j'en retiens, ouais, c'est de l'organisation, du plaisir. Et voilà, je pense que c'est déjà bien.
Alors, moi, je n'avais pas l'habitude de venir ici. Et le fait de s'y rendre tous les jours, on se dit que c'est hyper convivial, on est toujours bien accueillis. Y a plein de choses à faire et on voit toujours les choses différemment parce que le temps, ça change aussi toute notre perception des lieux. Et du coup, c'est vraiment un plaisir d'être venu ici et d'avoir pu avoir cette expérience.
C'est vrai qu'on n'a pas parlé, on a beaucoup parlé des humains, mais on a aussi représenté la faune, la flore, comme ma collègue vous l'a dit juste avant. Et ouais, c'est aussi une riche variété... Au niveau de la faune, surtout, on entend plein d'espèces d'oiseaux, ce qui fait partie aussi de toute cette ambiance calme qui s'en extirpe. Surtout qu'il faut réaliser qu'on est à deux pas d'un centre-ville. Et c'est ça aussi une des grosses forces, c'est qu'on a une parenthèse pure au milieu de la ville. Et je pense que c'est ça, les ortillonnages, c'est sa force.
Luc Douin, je suis architecte.
Le collectif YAM et son projet... Théâtre Ortus.
Marin, moi j'ai une formation d'architecte et maintenant je suis maraîcher.
Et Quentin Bourguignon, je suis architecte et charpentier. Du coup, le nom du projet, c'est le théâtre Hortus. Théâtre parce que la construction reprend la forme, l'archétype d'un théâtre et la métaphore du théâtre. Et donc, il vient tisser un discours autour de ça dans les ortillonnages. Et Hortus parce que c'est le nom latin des jardins et qui est à l'origine du lieu des ortillonnages. Et on s'est basé, après s'être renseigné et analysé un peu le site et son histoire, sur un peu la confusion, en tout cas la raison d'exister de cet endroit, qui est un lieu issu de la production qui aujourd'hui a presque entièrement disparu et donc les acteurs qui ont construit ce lieu ont laissé place maintenant à une fonction beaucoup plus contemplative, parfois presque de l'ordre du spectacle, et que aujourd'hui le lieu existe parce qu'il est regardé et non plus parce qu'il produit. Et donc pour venir jouer et mettre en exergue cette ambiguïté, on a donc construit un théâtre symétrique avec donc deux scènes et un rideau au milieu qui se font face et qui emmène le spectateur à venir monter sur scène et puis découvrir l'envers du décor qui est en fait le même et apporter la confusion sur la position des visiteurs des ortillonnages entre leur regard qu'ils y posent et le rôle qu'ils ont à jouer dans ce lieu.
Dans tous nos projets, on porte une attention aux matériaux qu'on utilise, autant sur le bois, sur la façon dont il est exploité et sur leur provenance d'un point de vue local. Et du coup, on a tout fait en mélèze de pays. Et la ouette, du coup, on a travaillé avec l'entreprise Bleu d'Amiens qui essaie de remettre un peu au goût du jour la culture et l'utilisation de la ouette dans sa fonction tinctoriale. Isatis tinctoria, pour la ouette, c'est vraiment le nom vernaculaire. Et donc voilà, on utilisait du lin qui a été cultivé dans les Hauts-de-France et qu'on a demandé à Bleu d'Amiens de teinter pour l'ensemble des voilages du projet. Donc il y a toute l'enveloppe bleue de la structure et le rideau en lui-même qu'on a fait teindre avec de la ouette. On va définir sa durée vie dans le temps. Donc on aimerait bien que ce théâtre puisse devenir une réelle scène pour accueillir des manifestations musicales, spectacles vivants ou que sais-je, quoi, qui veut ou qui peut s'en servir.
Perrine Malotier, paysagiste concepteur.
Et Kevin Gauthier, paysagiste concepteur également.
Le collectif Plein Champ et compagnie, projet Il Cadastral.
Donc c'est un projet qu'on a intitulé les Îles Cadastrales, c'est un projet donc qui questionne les dynamiques en cours sur ce site, les dynamiques naturelles du site, l'évolution de l'eau, la végétation, et puis qui questionne les dynamiques d'artificialisation du site, puisqu'on a souhaité représenter sur ce projet la limite cadastrale.
Le cadastre, ouais, c'est vrai que nous, dans notre métier, on en parle souvent, mais avant de faire ce métier, je ne connaissais pas du tout. Le cadastre, c'est un document réglementaire, juridique, qui définit la propriété privée. Et donc, quand on achète une maison, une parcelle, on devient le propriétaire de cette propriété qui est bornée, qui est représentée sur une carte et qui dit elle fait tant de mètres carrés. Ce qui était intéressant sur les ortillonnages, c'est que le site bouge beaucoup, mais le cadastre ne bouge pas aussi vite. C'est-à-dire qu'il est rarement remis à jour, c'est des choses qui prennent beaucoup de temps. Et ce qui conduit à par exemple des propriétés privées qui existent sur le cadastre, mais qui en vrai sont dans l'eau et ne correspondent plus à rien. C'était peut-être des anciennes îles, peut-être des lieux d'exploitation, mais ça a disparu aujourd'hui. Donc nous, ce qu'on voulait illustrer, c'est ce dialogue entre la carte et le territoire. Et du coup, on a représenté cette limite qui, en fait, de manière totalement arbitraire, passe au milieu de notre île, qui englobe pas du tout notre île, qui déborde d'un côté, qui reste à moitié sur l'île. Et ça, c'était assez intéressant. Le chantier, il a duré une semaine. Donc on a fait plutôt vite, on était 5-6 personnes. En fait, les pieux, on ne se rend pas compte parce qu'ils sont très enfoncés, mais la vase retient pas, enfin la vase n'est pas structurellement, elle ne permet pas de tenir le poteau. Donc on a des pieux de 4 mètres de long et qui dépassent de 1 mètre au-dessus de l'eau. Donc ils sont enfoncés quand même beaucoup avec nos petits bras et après avec l'intervention des grutiers de la métropole qui nous ont quand même bien aidés.
En fait, l'épaisseur de vase autour de l'île varie. C'est pour ça qu'on était contraints de choisir des pieux d'une telle longueur. Proche de l'île, on avait à les enfoncer plus ou moins, mais par contre, il ne fallait pas qu'on s'écarte de trop, c'est-à-dire qu'au-delà de 5 mètres, là, nos pieux auraient disparu dans l'eau. Donc ça, c'était quelque chose aussi d'assez particulier à gérer.
pour faire en sorte que notre cadastre soit régulier, ça aussi c'était assez compliqué, mais voilà, on a tendu des grands cordeaux, on s'est créé des marques, des repères, et au fur et à mesure, voilà, une fois que les 4 premiers pieux aux angles étaient plantés, ça c'était déjà une première étape importante.
Et après, on a fait tout un travail de création d'îles sur radeaux végétalisés, donc qui flottent. Et donc, il y a eu tout un travail d'assemblage, de modules qui permettent à la végétation de flotter. Et après, on a planté toutes ces îles, toutes ces surfaces. Donc, on plantait à une grosse densité de végétation parce qu'on voulait un bel effet. Donc, on a planté avec 15 unités par mètre carré. Donc, ça, c'est conséquent. Et donc, ça nous a pris 2-3 jours. Et puis après, il n'y avait plus qu'à tout installer, tout fermer et laisser à la végétation le temps de se mettre en place.
Ça, c'est en remettant cette limite anthropique, c'est-à-dire on ramène quelque part de l'activité comme les maraîchers ont pu le faire par le passé, c'est-à-dire que c'était eux qui créaient les berges et leur île en quelque sorte. Donc par une intervention humaine, ici qu'on matérialise par le cadastre, ben, effectivement c'est le processus inverse et on a une sédimentation qui s'accumule. On recrée des berges.
On a beau dessiner quelque chose d'une précision folle en se disant tous les poteaux seront à la même taille, ils seront tous verticaux comme il faut. Il y a un moment où on se confronte au site et on fait un peu comme on peut. Le rendu est bien, donc ça va. Mais c'est vrai que ça fait du bien, une petite piqûre de rappel, de se souvenir qu'on dessine mais que derrière il faut réaliser et que c'est pas tout le temps si facile. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai pris.
Nous sommes le collectif Solstice, on est un collectif étudiant du Lefer des Arts d'Amiens.
Donc notre projet s'appelle Résonance. On a construit une toile en fait autour d'un des cabanons du festival. Et cette toile, elle s'inspire à la fois du côté naturel et du côté artificiel des ortillonnages. Artificiel dans le sens où on s'est inspiré des acteurs qui étaient sur place, donc des pêcheurs, des maraîchers, des chasseurs, pour créer notre toile. Et le but, c'était justement de montrer la tension dans ce milieu des ortillonnages, qui est un milieu à la fois très naturel et à la fois qui a toujours été transformé par les hommes. Donc en fait, c'est fait avec des filets et des cordes. Et en fait, quand vous arrivez, vous avez la sensation d'être comme devant une toile d'araignée, en fait.
On a d'abord rassemblé tous les filets au préalable, donc pas sur le site, mais directement dans une salle de la fac, on avait déjà toutes les mesures, nos plans déjà faits. Pour que ce soit plus simple, une fois sur place, de tout installer. Donc on a fait face par face, on a d'abord accroché des crochets et après on a tendu les filets directement sur le cabanon et on les a modifiés en fonction du lieu du sortillonnage.
On a eu un retour de visiteurs, on a eu une famille justement où le père a tout de suite compris en fait que ça faisait référence à la pêche. Et à la pêche, bah, justement dans le milieu de la Somme, puisque c'est des filets qui sont, c'est pas des filets maritimes, c'est vraiment des filets qui sont faits pour attraper des poissons du coin. En fait, notre projet, il a démarré justement avec une toile d'araignée qu'on a réparée sur site en fait. Et je pense que justement, on porte plus d'attention par rapport au milieu, on est plus observateur en fait. Et au-delà de ça, je pense que d'avoir côtoyé, on va dire, des artistes plus expérimentés que nous, ça nous a encore plus motivés et ça a été vraiment inspirant, tout comme le lieu, en fait.
Bonjour, je suis Julien Fajardeau, je suis architecte.
Et je m'appelle Vincent Brédif, je suis sculpteur.
Le collectif Archisculteur et son projet aquatique.
Alors, ce qui est très important pour nous, effectivement, c'est de découvrir le lieu, que c'est vraiment le point de départ de notre travail. Tout part de là, et c'est vraiment avec l'environnement qui va accueillir l'œuvre que le projet se crée. On a besoin de voir l'endroit, que le lieu nous plaise, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs sites possibles. Il faut vraiment qu'on ait l'un et l'autre un coup de cœur sur le site, ce qui en général on est quasiment à chaque fois à 100% raccord sur ça, c'est-à-dire que juste un regard suffit pour comprendre que le site nous plaît à tous les deux. Et ensuite, à partir de cette visite, petit à petit, en fait, se tisse le projet sous forme d'échanges, de grandes discussions, de croquis, et effectivement la maquette qui est finalement l'endroit où on met nos quatre mains et on arrive à chacun donner la place à l'autre pour exprimer son ressenti par rapport à tout ce qu'on a dit. Dans ce qu'on appelle nos archisculptures, C'est des œuvres qui sont à la fois vues dans le paysage, mais qui font aussi partie du paysage, et dans lequel en fait on rentre à l'intérieur. On peut à chaque fois rentrer, monter dans différents espaces, et qui se connectent eux-mêmes avec la nature environnante. D'où vraiment l'importance du site et cet aller-retour qui se fait depuis le point extérieur, depuis le point intérieur. Pour nous, c'est une sorte de petit village lacustre, en fait, qui est du coup au bord de l'eau de ces rieux ou de cet étang. Et du coup, le projet est né par le fait de cette connexion avec l'eau, puisqu'il y a constamment des connexions visuelles vers les différents échappées, justement, des rieux qui sont situés autour de l'œuvre. Et du coup, voilà, ça a été assez direct, finalement.
Et le type de construction aussi qu'on utilise, c'est comme on est souvent sur des pieds, en fait, comme ça. Et évidemment, dès qu'il y a de l'eau, et dès qu'il y a de l'eau à des endroits qui sont plutôt stagnantes en surface, on voit tout le temps des araignées d'eau. Et en fait, notre point de départ, ça a très vite été l'araignée d'eau. On va se poser sur des patins, comme les araignées d'eau, pour être vraiment flotter presque sur l'eau, en fait, puisque là on est très proche de l'eau, la berge est très proche, et du coup c'est cette idée là en fait de trouver un équilibre qui soit appuyé comme ça sur quelques doigts. Là on est appuyé sur 9 lignes, je crois que c'est un peu plus que 13 lignes
d'un seul meuble qui peut effectivement à des moments s'affaisser, etc., ou avoir plus de souplesse et de répartir l'ensemble de la structure sur des points les plus écartés possibles, et assez proche que si on avait été posé comme une araignée sur l'eau. Donc ça aussi effectivement cette idée de s'écarter en fait du niveau constant dans lequel on est, puisqu'on est ou en barque ou à pied sur les berges, et donc on a toujours en fait une cote d'horizon qui est pratiquement toujours la même, et c'est pour nous c'était très important de s'élever par rapport à ça. Alors il y a effectivement l'idée aussi de l'humidité, de se mettre dans un endroit un abri au sec, et en même temps voilà de pouvoir se poser à un endroit où on a du coup un autre niveau de perception, et même trois niveaux de perception, puisque les cabanes sont situées à des niveaux différents.
En règle générale, on ne pratique que ça, c'est on prend la scierie la plus proche. On prend du bois qui est plutôt du résineux. Enfin, jusqu'à présent, c'est que épicéa, sapin. Et on prend que ces bois-là qui, en fait, ont une croissance assez rapide. Et comme on est, comme on est conscient de l'écologie dans laquelle on est, c'est pas nécessaire pour nous d'utiliser des bois nobles, enfin, qu'on appelle nobles, comme les feuillus en général, quoi.
Il y a plus de temps à pousser et qu'on préfère laisser aux personnes qui vont réhabiliter des granges ou des espaces qui sont voués à rester très longtemps et qui ont besoin que ce soit des bois résistants.
Le choix aussi du bois est aussi lié au type de, à la forme de sculpture. C'est vraiment lié à ça aussi parce que c'est un bois, le sapin, c'est ça, c'est un bois qui est assez souple et qui est en fait... Par sa souplesse, plus résistant. On travaille avec deux ingénieurs structures très sérieux qui nous accompagnent depuis 3 ans, 3 ans maintenant. On leur montre à chaque fois les plans et des dessins beaucoup plus précis sur AutoCAD que Julien réalise, de la maquette en fait, à partir de la maquette. Mais oui. Et on met un saturateur sur le bois aussi pour... Ici, on a pratiqué ça, pour pouvoir le pérenniser un peu l'œuvre, au moins sur 7, 8 ans, on ne sait pas. Comme on nous a dit, on ne sait pas, entre un an et plus.
Non, c'est prévu, en fait, pour résister dans le temps. Simplement, effectivement, quand on parlait tout à l'heure des feuillus, on n'est pas du tout vers les mêmes temporalités, quoi. C'est-à-dire, quand on dit de rénover une grange, c'est quelque chose qui doit durer un siècle, où on fait une poutre en chêne, un linteau, etc. Une ferme qui a du coup vocation à porter des tuiles, un poids important. Là, on est sur une construction quand même qui est très légère, mais qui est malgré tout triangulée dans toutes les directions, donc qui est auto-rigidifiée par elle-même, et qui a peu de chances en fait de se dégrader dans le temps, et ce saturateur écologique vient le rendre imperméable, en fait. Donc, rien ne touche le sol, rien en contact avec la terre. Donc par capillarité, il n'y aura pas de pourrissement. Et l'eau de pluie va ruisseler sur ce bois. Donc il n'y a pas de raison que ça s'abîme rapidement. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé l'aspect très très naturel, en fait, d'arriver, déjà le fait d'arriver en bateau, ça nous plaisait beaucoup, puis un bateau avec un moteur silencieux, où on entend constamment les oiseaux chanter, quasiment pas de bruit, uniquement le bruit de la nature. Ça nous a beaucoup plu, et quand on a choisi le site, on a choisi aussi un site qui était un peu plus reculé par rapport aux autres, qui est du coup effectivement une sorte de cul-de-sac. On arrive à travers de plusieurs parcelles et de passerelles, et ça nous plaisait bien d'arriver dans un endroit un peu caché où vraiment on se sent au milieu de la nature.
Vraiment, dès qu'on est dans un milieu naturel avec Julien, c'est une évidence, en fait. C'est vraiment évidence, cette chose de faire attention à ce qu'on fait. On coupe jamais un arbre, on n'écrase jamais une plante rare, ou on fait vraiment très très attention à notre environnement naturel direct quand on construit. On est prêt à sacrifier des bouts de bois, de la sueur et tout, pour pas écraser ou abîmer ce qui nous environne, quoi.
C'est notre cinquième archisculture, donc on a déjà l'habitude de travailler ensemble, de savoir la place et le comment fonctionne chacun.
De partout où on est passé, on a eu des retours, pas directs parce qu'on n'est pas tout le temps là, enfin quelques-uns de directs. Quand on est en train de construire, ça c'est oui, on a des retours des gens qui sont généralement surpris.
Souvent on se retrouve à discuter avec les gens pendant un bon moment. Alors quand on était dans le 106, c'était incroyable, on était sur un chemin de randonnée. Donc là c'était 24-24, on discutait avec les gens. Donc on essaie de trouver des moments quand même pour travailler. On le faisait à le tour de rôle. Mais c'est vrai que du coup, et c'est du coup un projet où on a eu beaucoup de retours par rapport à ça. En fait d'avoir rencontré les gens, ça a vraiment créé des liens. Des gens qui continuent à nous envoyer des petits messages et des trucs, qui suivent encore notre travail. Donc ouais, c'est assez rigolo.
En fait, la plupart des gens, les retours qu'on a en général, c'est d'abord la surprise, parce qu'ils ne s'attendent pas à voir ça là. Enfin ça, voilà. Ces archisculptures, ça c'est une des premières raisons. Et je crois que la deuxième, c'est souvent que c'est... Comment dire, ça leur semble complètement naturel qu'il y ait cette chose à cet endroit, que ça fait partie du paysage, et c'est un de nos fils qu'on tire régulièrement sur ces réalisations. Et ça, c'est vraiment les deux retours qu'on a le plus souvent, c'est ça. C'est surprenant, et en même temps, ça a l'air d'être là depuis tout le temps, ou ça sera là encore longtemps.
J'ai pu rencontrer ces artistes et paysagistes qui participent pour la première fois au Festival international de jardin dans les Ortillonnages. Vous avez jusqu'au 13 octobre pour aller découvrir toutes les œuvres du Festival Grandeur Nature. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet www.arretjardin-hdf.com. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur le site radiocampusamiens.fr et sur nos réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous à la rentrée et d'ici là, bonnes vacances. Tchuss!
Campus Amiens est disponible sur tous les supports d'écoute,
en FM sur 87.7,
sur internet radiocampusamiens.fr
et désormais en qualité numérique sur le DAB+.